Bonjour à tous. Nous sommes réunis ici à cette heure excessivement matinale pour parler de traduction et d'un livre particulier et d'un auteur particulier. Donc j'ai avec moi Sarah Doak, traductrice et auteur, et j'ai avec moi Matt Sedain, auteur de l'extraordinaire ouvrage dont nous allons parler, auteur australien, néo-zélandais, j'y arriverai pas, je suis désolée à chaque fois, néo-zélandais, qui vit...
I'm out of here. No, that's it.
Qui vit, sorry, néanmoins à Londres, qui est en grande partie journaliste, mais pas que, qui va peut-être pouvoir commencer à nous parler de la façon dont ce livre qui est paru au Diable Vauvert, qui s'appelle
Théâtre des dieux.
Théâtre des dieux, c'est déjà tout un programme. Dans quelles circonstances il a été écrit, parce que je pense que c'est assez intéressant de voir la façon dont il a accouché de cette œuvre, qui est un livre étonnant à bien des points de vue.
It was a surprise to me as well, I think. Can I first say thanks very much for hosting me in the city. Yeah, it's such a lovely town, and thanks for showing up this morning. Could you all look a tiny bit bigger?
J'ai oublié de préciser que vous avez des casques pour les non anglophones. Je ne sais pas quel est le canal, mais ça devrait fonctionner en principe.
Are we on? You have also sympathies to the man in the box who has to translate a New Zealand accent. It's never the easiest accent. Like, is it all right? Proper job. The birth of the book was a very traumatic, but in a good way, experience. So I just moved to London to break into publishing from New Zealand, and once I got there, I gave myself a certain number of years to move forward and to get into the publishing industry. But circumstances there—I worked in journalism at the time, but circumstances were very tough, so I didn't get as much work as I wanted to do. So I decided to take a radical experiment and to take a month to write this book. So did you
a
not
month?
Know that? Well, to be clear, that's a first draft. So. It was this amazing experience where I was in a small attic in London, getting up every morning at 4 a.m., working this stupid schedule until around lunchtime, 12, 1, I would take a break, I'd walk or I would nap, and then I would get up again and work till 10 or 11 p.m. at night. So I must have been younger. Because I was doing 8,000 to 10,000 words a day, but it was madness, and I was like, if you know the movie The Martian,
with the Martian.
Yeah, it's like being a castaway. You don't see your friends. You grow a huge beard. You live off potatoes that you grew yourself. You become this kind of stranger. Everything becomes very warped. It's true. And it nearly ended me, but the strategy was to have a book. Your first book is something that you romanticize and you build up in your mind, and it gets to the point where if you don't just do it, you never will do it. So at the end, I had a shorter draft, and I was able to send that, the first few pages, to an agent. I will never write a book like that again. It's not wise.
C'était pas votre premier roman en vérité. C'était pas votre premier texte. Vous aviez commencé à écrire avant d'aller quitter la Nouvelle-Zélande.
Yeah, well, from a very young age, I remember writing stories before I went to school. It was always just a natural part of life anyway. So because on the farm in New Zealand, there are not a lot of other things to do. Books were everything. We had, I think I said the other day at a panel that we had no, for a sci-fi author to grow up with so little technology is quite strange thing. We had no technology. In our house, we had a phone that was like a Sherlock Holmes phone. Do you know the big Victorian phones? And you have to wind the crank on the side and go, come here, Watson.
Avec un petit cornet pour mettre sur l'oreille. Peut-être pas à ce point-là.
Maybe not air horn, but you had to wind the crank a certain number of times to get the number. It didn't even have a dial. And this is not, I wasn't born in the 50s either. This is New Zealand back in the 80s. So there was no technology, but there was books and there was one TV channel. and we had movies. I mean, movies were as important as books. You had to travel for movies. We had to go into the nearest town. So we had to travel for a long way just for these event movies. Return of the Jedi.
Okay.
You go there, and that's your night, and you have dinner, and I'm getting nostalgic.
Ce que j'aimerais savoir, c'est avant cette période d'un mois, est-ce que vous aviez pris des notes? Est-ce qu'il y avait un plan? Est-ce qu'il y avait des idées? C'est venu, c'est sorti tout d'un coup pendant cette session d'écriture extraordinaire?
It was planned to a certain extent because it came from a lifetime of writing. So I mean, I've written every day for a certain amount of time my entire life. So there are stories and there are ideas, but the point of it was to create something that was wild and exciting, and that people hadn't ever read before. The point of it was to try to create something that, when you were small and you read, there was a certain unpredictability to anything. Anything could surprise you. You never knew which way things were going to go. So I wanted to create something that had that level of astonishment, and that would take people down unexpected digressions and avenues, and was immersive. People could become lost in the book, and then at the end would hopefully, I think, resolve itself. I think it just resolves itself.
Oui, je ne vais pas essayer de résumer l'intrigue. C'est une aventure extraordinaire, à la fois spatiale, dimensionnelle, avec des personnages très hauts en couleur, et avec c'est aussi un objet qui commence par des déclarations de l'auteur, de l'éditeur, enfin bref. C'est aussi, il y a des choses graphiques à l'intérieur du bouquin qui sont très 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 intéressantes.
Et il y a la petite page de calme.
Oui,
pour se reposer de la lecture au moment où on est un peu trop perdu.
Ne serait-ce que la table des matières est un poème en soi. Donc c'est le moment de passer au traducteur aussi. Oui. No, aucun problème.
Yeah, the little page of calm, of course, came from the... I don't know in France if you know the actual book, the little book of calm, but it's supposed to be this relaxing... it has little things that you can read every day, like...
Ça existe aussi, oui. Le petit livre de citation, des choses comme ça. Oui.
It always terrified me. It made you reflect on your own tension. It's like it's the book form of somebody saying, "You look tense."
Oui, well. C'est du coup on se dit qu'on l'est véritablement, ouais, tout à fait. Est-ce que vous aviez déjà eu des expériences de d'être traduit avant ce livre?
None, no. This is all a new, a bold new journey. I hadn't had anything translated. I'm working on a book for children at the moment, which is a book about space, and what it's seeking to do is to make ideas like the scale of the universe And ideas like the theories about whether alien life exists or not, the whole idea of the big question, where is everybody? You know, if the universe is so massive, where is everybody else? All these questions that scientists ask themselves all the time. So I'm working on that at the moment, and that in itself is an act of translation, because you're taking ideas in the scientific sphere. Much the same as my friends, my scientific friends on the panel last night were speaking about these things like evolution and genetics, and I felt I needed a translator for a lot of what they were saying. But to give you an example, just to make clear to a child, someone of school age, the size of the universe is 200 to 400 billion stars in our galaxy.
C'est inconcevable pour, même pour un esprit adulte, je pense.
Yeah, for me, the challenge is to come up with analogies. How do you come up with an analogy for 200 billion stars in the observable universe? So you can say, well, take every single grain of sand in the Sahara Desert and make a sandbox with it. Well, that's the Milky Way. That's not even... It ended up being that if you want to create a sandbox with as many grains of sand as there are in the observable universe, you need every grain of sand that exists on Earth, and then you need 40,000 grains for every single one of them. So you're trying to create these analogies so that children will comprehend the scale of what we live in, but importantly, not feel suicidal at the end of it. You don't want suicidal children.
Je demandais à Sarah, comment s'attaque-t-on à un monstre pareil, autant en termes de taille que de style, que de langage, vocabulaire, etc. Est-ce qu'on fait des exercices particuliers? Est-ce qu'on se lève le matin, on fait son yoga, du théâtre des dieux? On veut savoir.
Alors, d'abord on lit. D'abord on lit une fois, on lit deux fois. On pense à Mervyn Peake et à Gormenghast. On pense à des choses aussi énormes, aussi folles que ça. Et on se dit, waouh, c'est moi qui vais le traduire, c'est magnifique. Et puis on prend des notes. Et puis on se dit, ok, bon, là, il y a ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Donc okay, je vais devoir trouver une traduction, je vais devoir inventer un mot, je vais devoir. Ok, alors là, j'ai une citation, là, j'ai ceci. Ah, oui. Bon, non, les chansons de marins en exergue, on ne va pas les traduire parce que c'est quand même des vraies chansons rock. Donc, je ne peux pas les traduire. Je ne vais pas traduire Nirvana, par exemple. Même si le texte est changé par rapport à la version originale, l'amateur de rock va reconnaître le texte. Je vais réfléchir et alors telle personne et vraiment essayer de mettre les choses en position et puis on traduit mot après mot, page après page et petit à petit on avance et on note dans un petit coin. Bon, ça il va falloir que je lui demande, ça il va falloir que je vérifie, ça oh ah attends, il y a ça, waouh, comment je vais faire, et vraiment jour après jour, page après page, jusqu'à ce qu'on ait fini le premier jet pour pouvoir revenir dessus encore et encore et trouver systématiquement la manière de l'amener en français.
Was it a confounding experience at the beginning? I know readers sometimes say it took me a long time to even find what this was. Did you find it?
Non. Non, mais parce que je crois que c'est ma culture qui me permet d'avoir accès à ça. J'ai lu suffisamment de textes fous, de textes différents pour ne pas me perdre. Au contraire, pour savourer le côté, ça part dans tous les sens, il y a un nombre de concepts et de personnages assez importants et surtout... Ce que je préfère dans la lecture, dans les romans, c'est la foison. Il faut qu'il y ait plein de choses, il faut que ce soit riche.
Là, effectivement,
il faut que ça, ça, Et ça, j'adore. Et puis, je disais, j'ai pensé à Gormenghast, j'ai pensé à Robertson Davies, j'ai pensé à des auteurs qui ont joué avec plein de concepts, avec plein de choses différentes, et c'était merveilleux.
That's actually the other thing that I wanted to ask is, is there something in it that you think specifically appeals or resonates with French readers? Is there something, accidentally, obviously, I don't have French heritage, but is there something in it that is French?
Peut-être. D'une certaine manière, on peut penser à du Rabelais pour certaines choses, on peut penser à des textes, surtout des textes anciens, plus que des textes modernes, mais ce côté foisonnant, ce côté délirant, ce côté multiconceptuel, oui, il peut avoir des résonances dans certains livres français.
Moi, ce qui m'a frappé dans ce que j'ai lu du livre que je n'ai pas eu le temps de terminer pour des raisons pratiques, c'est la voix narrative. C'est ce qui tient le livre. Le livre donne l'impression de partir dans tous les sens, du point de vue du genre, du point de vue des personnages, etc. Mais il y a une voix. Et ça porte totalement le bouquin, et c'est un plaisir de se laisser porter. Ça, c'est très, c'est le langage d'abord, c'est quand même très 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 français, je trouve.
Et il y a vraiment ça, et ça qui vous accompagne page après page, et qui vous aide à se lancer dans l'immense voyage qu'est le roman.
Est-ce que c'est venu tout de suite, la voix, le rythme du livre, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit?
No, it's all your voice is your voice. I think, without trying to be too pretentious about it, but I think that you have the writers that we love all have a voice, and it carries through everything that you do. So, your voice is an unintentional thing. It's the aggregation of everything that you've ever read, everything that you've ever thought. And especially with a sense of humor, you know, if you're writing something that's funny, your specific take on the world is very, very important. But as the individual characters in the book need to have their own voice as well, that's quite important. So Vulcan on the narrator, for example, is based on Voltaire, and where the main character, Fabregas, is, I forget, it's probably a lot. He's Don Quixote and Sancho Panza in one body. But the important thing was, there was a lot of comparisons to Douglas Adams, who's obviously, if you do anything that's set in space and it's slightly funny, people will bring up that comparison. So I get that a lot. And he was someone I read quite a lot, but He has a very specific voice. Every character in a Douglas Adams book is Douglas Adams. Whenever a character, and it can be any character, they will always talk. The format of the jokes will always be very Douglas Adams, and it carries through. And that makes him uniquely him. And so I was very conscious of trying a different experiment and making sure that each character had an emotional center and a style and a voice, or each of their own.
Tout à fait. Il y a un rythme différent selon les personnages. Il y a un vocabulaire différent. Il y a un humour différent qui est présent tout au long du bouquin, mais qui vraiment résonne d'une personne à l'autre en étant systématiquement différent. Et ça a été aussi une expérience très agréable de traduction, parce que c'était une évidence. C'est une évidence dans la musique du texte que là, c'est pas le même vocabulaire, c'est pas la même voix, c'est pas le même rythme, c'est pas la même manière de s'exprimer. Par exemple, les rencontres entre les sœurs de la reine, et toute l'histoire du complot, et les sœurs 1, sœurs 2, sœurs 3, etc., et la manière dont elles se répondent et dont ces dialogues sont présentés est très particulière. Et à son propre rythme, son propre son.
It's been such a long time now because the book came out in English in 2013, so I'd finished writing it sometime, I don't know, 2011, 2012. And so it feels like an age now. So when you bring up characters like that, I suddenly remember them. I picked it up a while ago and opened a page, and I didn't recognize the idea. I think maybe that is because it was done in such a
rush.
Well, the editing, I mean, the total writing was sort of nearly 2 years after that initial rush, but still it was a very meditative process. So I'm constantly surprised to remember things that were in it. And it's actually quite, it's one of the challenges of talking about it now that it's been translated, is still relating to something after I've done another book, and I'm working on several more. So it becomes sort of lost in the past in a way, in a good way.
Est-ce que justement, est-ce que vous aviez des attentes particulières par rapport à la traduction?
No.
Des recommandations pour le traducteur, des avis, des.
It probably is a bit late. No, I know, I don't. Could do a revised version after I've learned French finally. When one of these years when I finally learned French, I can come back to you and go, no.
Mais on verra avec Hunters and Collectors. Et là,
qui est le deuxième livre. Voilà. Qui,
peut-être
qui
que va... là, on pourra en parler avant et discuter de ce qu'il a particulièrement envie ou pas. Mais on ne se connaissait pas, je ne connaissais pas encore sa langue, je ne connaissais pas encore sa musique. Et donc, c'était difficile de pouvoir discuter avant de traduire. Et généralement, j'attends d'avoir terminé le premier jet.
D'accord.
Et établi une série de questions sur les choses qui m'ont posé problème ou pas pendant la traduction, avant de prendre contact avec l'auteur pour avoir une série et pas oui. L'embêter trop souvent. Et il y a eu des surprises à certains moments quand je me suis rendu compte qu'il y avait une citation de structure. Il y a une citation de La Tempête de Shakespeare, mais ce n'est pas du tout la réplique de Shakespeare. C'est le rythme de la phrase, c'est le sens, quelque part, de la réplique, mais c'est des mots totalement différents. On ne parle ni de bruit, ni de fureur, ni de signification. Mais en même temps...
Signifying nothing.
Yes.
Mais en même temps, on reconnaît la citation.
On reconnaît le rythme de la citation, on reconnaît le sens de la citation et le côté plein d'humour de la citation. Mais c'est une citation de structure, c'est pas une citation réelle.
I think that's a very perfect example of exactly what you want from a translator and why you shouldn't be interfering in the process at all until invited. I mean, you just shouldn't. It's not your work anymore. It's the translator takes it, they take it into their own world, they work on it, and they have if they're good at their job, like Sarah is, they have those kind of insights into the text. You know, you trust a publisher like Odiab, you trust that they have good people and that they... that they have someone who will make a work that is reflects their perception of what the author's intention was, but that takes it in an entirely new direction. I mean, this is a new culture that it's entering. France is a planet of its own, and it needs to, while it preserves what the author originally intended, it needs to make sure that it treats it like a new object. It's your book after you take it and translate it.
It's ours.
Donc vous avez été en contact à un certain moment ou pas? Oui, finalement.
Oui. Et surtout que, alors il y avait des petites choses parce que j'étais pas sûre du sens ou je voulais être rassurée par rapport à certaines choses. Et puis il y a eu un truc où là il fallait que je discute avec Matt parce que. En français, ça passait pas. À un moment donné, il y a un univers de poche. Cet univers de poche est une prison. On rencontre l'architecte de l'univers de poche dans l'univers, les personnages le rencontrent, et il leur explique le fonctionnement de son truc. Et le fonctionnement de son truc, c'est les 3 B. Bees, butterflies, and bears.
I remember.
Le problème, c'est que, autant pour les abeilles, on peut trouver un mot en B. On parle de bourdon à ce moment-là, surtout que les bourdons fabriquent du miel aussi, donc il n'y a pas de problème. Pour les papillons, il y a suffisamment d'espèces de papillons pour en trouver qui ont un nom qui commence par B. J'ai choisi les bombyx parce que c'était facile. Mais pour les ours, j'ai eu beau chercher dans tous les sens, je n'en ai trouvé aucun. Alors, il y avait bête. J'en ai discuté avec d'autres traducteurs à un moment donné. On s'était dit balour ou... Je ne savais pas très très bien. Et puis, j'ai eu une idée par rapport à la personnalité du personnage qui en parle. Et je l'ai proposé à Matt en lui expliquant la polysémie du mot. Et on a beaucoup ri avec ça tous les deux. Et c'est passé. C'est-à-dire que dans la bouche de ce personnage, et uniquement quand c'est ce personnage qui parle, ce ne sont pas des ours, ce sont des bourses. Mais ça correspond tout à fait à la personnalité et à la folie du personnage. Et donc, ça, c'était très, très, très amusant à faire. Et c'est d'autant plus amusant que il y a eu des critiques, il y a eu des chroniques du bouquin, j'ai parlé avec des blogueurs sur le bouquin, et personne ne l'a remarqué.
Ce qui est le but.
Tout à fait.
I remember the word oil.
Oui. Yeah. Ça, c'était sur la station spatiale. Sur la station spatiale, il y avait oil, 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 oil. Et j'ai eu besoin de savoir de quoi on parlait, si c'était de la graisse ou de l'huile.
En anglais, le mot peut avoir plusieurs sens. Ça peut être traduit de différentes façons en français.
Si c'était de la graisse de moteur, si c'était de l'huile, si c'était quoi. Et donc, on a discuté, on a essayé. Voilà.
Well, it was supposed to evoke the opening of, I think it's a Dickens novel. I think it's Modern Times where he talks about fog, yeah. And he uses it as a link word which appears all the way down there, and it's just beautiful. So I, you know, in a certain sense, it was a homage, or I stole it, and used oil. But it was an idea beyond what all those definitions of oil. It was the idea of the city where, because it's. You can mine in space, you can synthesize the soil. It was the idea of a city that was just hung with what I used to find when I would go into our shed on the farm when I was small to get a tool, say, to fix the lawnmower or something. And there would just be this coating of a certain kind of oily grease that had dust and dirt in it.
Et avec la conversation qu'on a eue à ce niveau-là, j'ai vraiment compris ce dont il parlait, et j'ai donc pu utiliser la polysémie du mot aussi, le côté graisse de moteur, le côté huile pour huiler les rouages, pour permettre ça, toutes ces différents sens, l'huile du sébum et de la sueur, l'huile des moteurs, tout prenait sens à ce niveau-là, et j'ai pu vraiment utiliser ce côté graisseux qui emplit.
Airwax is a viable fuel.
As well.
Sorry, I didn't get that. Le cérumen
est une très bonne.
Ah, d'accord. Ok.
And now all these people can think about is oil.
Oui. C'était le but, en fait.
Oil, c'est aussi le pétrole.
Oui.
C'est pour ça que la question se posait. Parce que c'est le pétrole, c'est la graisse de moteur, c'est l'huile pour lubrifier, c'est tellement de choses différentes qu'il fallait affiner la polysémie.
Tout à fait. J'aurais voulu te poser une ou deux questions sur le travail avec l'éditeur. Qui a dû être nécessairement important, mais peut-être plus avec un livre comme celui-ci, où il y a des parties graphiques. Quel a été le rôle de l'éditeur dans la relecture? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été long?
Non, ça a été assez simple. J'ai beaucoup travaillé avec la correctrice. Et puis, Matt m'avait envoyé la version EPUB, parce que j'aime bien travailler. En fait, quand je travaille, j'ai mes deux écrans d'ordinateur. Un avec Internet et mes différents dictionnaires. Un avec le texte que j'écris. Et devant ça, j'ai ma liseuse, sur laquelle j'ai le texte, que je m'arrange pour avoir des caractères qui aient la même taille sur la liseuse que sur mon écran. C'est beaucoup moins fatigant pour mes yeux.
Oui, tout à fait.
Mais quand il m'a envoyé l'EPUB, il m'a envoyé en même temps les fichiers graphiques des illustrations, etc., etc., que j'ai pu fournir à Raphaël pour après. D'accord. Et donc, ça a aussi beaucoup aidé. Et j'ai essayé, dans ma mise en page, même si je n'utilisais pas les polices de caractère, etc., etc., j'essayais d'utiliser, par contre, ça c'est en capital, ça c'est plus gros que ceci, etc., etc. Et donc, dans mon propre fichier, il y avait déjà une partie de la...
Oui, pour que la personne qui réalise la maquette. Puisse s'en repérer.
Voilà.
J'ai eu déjà la question avec des cartes. Dans mon souvenir, il n'y a pas de carte.
Ça aurait été un petit peu compliqué avec les différents univers, les différentes planètes,
There's a very important aspect that I think it comes up in the science fiction and fantasy that I love, but is the opposite to the perhaps some stuff that I don't read, and that is the level of explanation. I'm not attracted to works that lay out the world in all its detail, that have maps at the beginning and show you where you're going. I love books where there is an aspect of mystery, where a technology is mentioned and there's no, it's just the name of it, and you as a reader have to do the hard work to make the connections and to decide what it is. So I wanted this world, at first this world was going to be set in a giant body that you would never realize was a body until you and came out of it at the other end, but that was a silly idea. But yeah, I wanted the space, I wanted the world to be mysterious. And in Hunters and Collectors, the next book, it's even more so. I think readers feel rewarded and not patronized when they have that kind of experience where things are a little bit more unexpected and mysterious.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a un côté où on ne prend pas le lecteur pour un idiot, on ne prend pas non plus par la main. Il doit faire le travail tout seul. Et comme on passe de monde en monde, de planète en planète, de situation en situation, d'un endroit qui est rempli de plantes carnivores et de plantes empoisonnées parce que c'était le jardin botanique d'un botaniste fou, passionné par le poison, à une jungle impénétrable avec des sauvages qui ne sont pas sauvages, mais qui, enfin, à un peuple entièrement silencieux par la force des choses, ils n'ont pas eu le choix. Mais il y a un extraterrestre chez eux qui est tellement sensible au son et tellement gros que s'ils font du bruit, ils risquent d'être détruits.
C'est gênant, effectivement.
Par les mouvements de cette créature. Et donc, il y a tellement de choses différentes. C'est extrêmement riche. Ça m'a parfois donné l'impression de traduire plusieurs romans à la fois.
La taille fait qu'il fait plusieurs romans à la fois, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a beaucoup de néologismes? Parce que moi, j'ai pas eu le temps d'aller assez loin dans le livre, justement.
Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Par contre, il y a des... on ne va pas parler d'univers alternatif ou de dimension alternative. On va parler de proche univers. On a simplement des choix de termes.
Il y a une description avec des sphères qui est assez étonnante.
La scène avec les sphères est absolument magnifique.
I think an important aspect to it was at the time I was reading about quantum physics, and it reminded me of reading about the occult, because essentially at a certain point science becomes so unbelievably strange that it may as well be magic. So I think the fusion, the jumping off point between fantasy and science fiction, for me, is a very important one. It's like the jump between talking about science and talking about mythology. Even just a concept that like entanglement, where you can have a subatomic particle that has a relationship with another particle that exists beyond time and space, and if you alter the polarity of one,
if you measure you do something to the other,
which means you can build things with it, and
C'est une des lois d'Arthur C. Clarke. Qui est qu'à un moment donné, la magie, la science devient si compliquée, si incompréhensible, qu'elle peut être considérée par certains comme de la magie.
Oui. Toute science suffisamment avancée ressemble à de la magie. Enfin, j'ai plus la citation tout à fait en tête. Est-ce que tu as commencé à travailler sur le prochain livre, ou est-ce que c'est...
Je vais commencer à le faire. Par contre, je l'ai lu déjà.
Ah, Et est-ce que tu sais à quoi tu t'attaques
Oui, c'est très excitant, c'est terrifiant en même temps. Mais je le savais avant même de le lire. Je me souviens de la critique de Van der Meer sur Hunters and Collectors, où j'ai eu une longue conversation avec lui sur ce bouquin-là et sur le précédent, sur Theater of the Gods, qu'il n'avait pas encore lu. Et c'était...
Who is this? With me or someone else?
Van der Meer.
Oh, Van der Meer.
Quand il a écrit la critique, la chronique de Hunters and Collectors, il en a beaucoup parlé sur Facebook. Il a énormément défendu le roman. Et comme on est en contact, j'ai discuté avec lui pour lui dire « Mais si tu as aimé celui-là, il faut lire le premier, parce qu'il y a quelque chose, c'est différent, mais en même temps, il y a quelque chose de tout aussi extraordinaire et différent. »
Yeah, we really, I think, we were in contact too after that review. And he's becoming an important champion, and I think because we are both authors that are difficult to pin down, there are different words for it: weird fiction or slipstream. I don't know if you have a specific one in France.
On utilise les étiquettes anglo-saxonnes faute d'avoir inventé les nôtres, mais c'est très pratique.
Yeah, he's someone who really believes that. Books like the ones we write need to be managed very carefully, because they never will fall within certain genre boundaries. And his books are just so beautiful. I'm really, really happy that I only discovered them after writing these first two books, because they could end up being quite influential. We share an idea that the mysteriousness of the world, it's almost as if when I read him, I feel like I do when I write, from the perspective that the evolution has created us to survive, and the only way that evolution can help us to survive is by giving us a very simple operating system, visually, in terms of how we relate to the universe, to the world. We're given the least amount of information necessary just to survive. So we're not built to understand the universe. It would be stupid for evolution to build us to know everything and to understand everything, because we would die. It would be like having a computer where, when you clicked on an icon, it showed you all the code that was underneath it, and you had to rework the code. So we are built in a kind of an opposite frame between evolution wanting us to survive and us on this quest for meaning. We're desperate for meaning. We're desperate to know what the universe is and how it functions and what the underlying code is. But at the same time, we're given almost, by evolution, almost no information to do that.
Et je crois justement que le fait que ce soit difficile à genrer, que ce soit de la weird fiction, fait partie du plaisir que j'ai eu à le traduire, parce que ça fait partie des choses qui m'intéressent le plus. Le mélange des genres, dépasser les genres, créer d'autres formes, est quelque chose que je trouve beaucoup plus fascinant.
Ce qui n'est pas mon cas en tant qu'auteur, mais la question n'est pas là.
Et ce qui est par contre mon cas en tant qu'auteur.
Oui. Je pense qu'on va peut-être demander à notre public s'il a des petites questions ou des grosses questions à poser. Je ne sais pas si on a quelqu'un.
Il arrive, le micro arrive, merci infiniment.
Voilà.
Oui, justement, je me disais, Sarah, comment tu fais le lien entre ton œuvre personnelle et ton travail de traductrice ? Est-ce que les deux interfèrent ou est-ce que c'est deux domaines que tu considères comme complètement opposés ?
C'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine influence dans le sens où traduire m'apprend à écrire. Traduire affine mon travail d'écriture. Traduire m'apprend à écrire le long, parce que je suis d'abord une nouvelliste. J'ai une formation de journaliste, j'ai une formation à la concision, ce qui fait que je traduis à l'économie, mais ce qui fait aussi que le long cours, le roman, est quelque chose qui à la base, n'était pas ma forme. Par contre, traduire des romans, mettre les mains dans le cambouis de la construction de quelqu'un d'autre, m'a appris énormément de choses. Par contre, le contenu de ce que je traduis n'influence pas mon travail, véritablement. Et ce que je fais, c'est que je mets une... Il y a vraiment une séparation. C'est-à-dire que je traduis sur ordinateur. L'ordinateur est là pour le travail. Je traduis sur ordinateur. Quand j'écris à la main. Après, je vais mettre mon texte dans l'ordinateur et ça va me permettre de faire un gros travail éditorial dessus. Mais je sépare les deux en ayant une autre forme de travail, un autre moyen, même sensoriel, de fonctionner.
Je comprends parfaitement. Je fonctionne pratiquement de la même façon. Il y avait une autre question. Ouais.
Bonjour. Quelle est la...
Ça marche ?
Quelle est la difficulté pour un auteur d'écrire sur le thème de science-fiction ? Et ma deuxième question, est-ce qu'on peut mélanger, par exemple, le thème du XVIIe siècle avec la science-fiction ? Est-ce que c'est facile de travailler sur ce...
Moi, je vais répondre juste avant de donner la parole à Matt. Oui, c'est tout à fait possible. J'ai traduit... Un roman de James Morrow qui a une relation très très forte avec le 17e, le 18e, le 19e. Là, ça se passe au 19e siècle, autour de l'œuvre de Darwin et autour de toute l'histoire, de toutes les découvertes de l'évolution humaine et de la génétique, etc. Et donc, oui, il est parfaitement possible d'écrire un roman d'écrire un roman de science-fiction qui se passe au 17e siècle est possible.
Yes, I think it's I think it's sometimes easier to shift out of the space where science fiction is usually present and to find a new venue for it. I think the 17th century is very very appropriate. I just wrote a short story for an anthology, well, not just a couple of years ago, which is based on Samuel Pepys' diary. He wrote a diary during the Fire of London, but. The simple conceit was that there was no fire, it was just a vortex in the middle of London. But I think your other part of your question was, is it difficult to write science fiction? Do you mean generally? I think it's really difficult to find these days what science fiction really is. And I think it's the challenge for an author is to find their own particular genre. I think you have to write what's important to you and you have to design your own genre. If marketing people, if booksellers, they will come and they will take it and they will go, it should go on this shelf. And that's part of the business. But I think it's important to find what's important to you, what your voice is, what the subject matter is, and to try to make that your own private genre. I think that's much more challenging and much more rewarding than having a set of tropes, we say, a set of kind of cues that are science fiction, and to try to replicate them. I'm constantly searching for writers who don't follow genre rules. So maybe that makes me a freak, but it's what I love.
La question de l'éditrice.
C'est pas une question, bien sûr. J'ai pas spécialement de. Enfin, donc j'ai édité. Moi, je voulais parler du livre en disant que je me pose pas la question de la science-fiction quand je lis un manuscrit. Ce que je sais, c'est que le livre de Matt. Parce qu'en fait, en écoutant la table ronde, je me dis que ça doit être un peu difficile pour les gens qui écoutent de se figurer exactement ce qu'est ce livre, qui est évidemment pas résumable.
C'est un voyage.
Et voilà, c'est un voyage. En fait, c'est le récit du plus grand voyage qui ait jamais eu lieu dans l'univers connu. C'est le récit de la plus grande armada intergalactique qui ait jamais eu lieu. C'est le récit des mémoires retrouvées, comme un peu le manuscrit dans la bouteille, au fond des astres, etc., du plus grand conquérant, de la plus grande ambition terrestre à dominer tous les mondes. Donc on n'est pas du tout dans la SF, on est dans l'ego des hommes. Et moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai pensé à Stevenson et à Wallace. C'est vrai que j'ai pas... Et puis j'ai pensé à Micromégas et à Voltaire, évidemment. Mais Rabelais, effectivement, ça a raison, il y a du Rabelais dans ce livre. J'ai pensé à Sartre. C'est un roman existentiel, c'est un roman sur le pouvoir et le libre arbitre, c'est un roman, et surtout, c'est le plus bel hommage que j'ai jamais lu au roman d'aventure. C'est un roman d'aventure totale, c'est-à-dire que moi je suis toujours l'enfant qui tremble dans Stevenson, qui suit, bon, alors c'est pas Davy Crockett, hein, mais alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Américains dans notre paysage littéraire et d'Anglo-Saxons, en tout cas dans ma génération, parce que le roman d'aventure, il a quand même été... je pense développer pour nous, en tout cas pour moi, comme gamine, lectrice, pour beaucoup de Français, par la culture anglo-saxonne du récit d'aventure. Et j'inclus dedans, bien sûr, le plus grand récit d'aventure qui soit, c'est-à-dire la science-fiction, le space-op et pas seulement. Mais en fait, ce qui est bien, ce que je trouve important dans Théâtre des Dieux, c'est que c'est un livre incroyable par un jeune homme que j'ai trouvé incroyable, parce qu'il était donc il y a 5 ans ou il y a 7 ans, donc Matt était tout jeune, et c'est le plus bel hommage au roman d'aventure global qu'on peut imaginer dans l'humanité, et bien sûr c'est pas un livre de science-fiction pour moi, c'est seulement un...
Il y a des armadas galactiques.
Mais oui, il y a des armadas, il y a des choses, mais on commence, qu'est-ce que c'est ? On commence par l'adresse de l'éditeur, et donc tous les jeux sur le texte, et tout ça, et de ce point de vue-là, Matt, il a conçu, c'est ça que je voulais dire un peu, il a conçu son livre comme un truc global. Il avait conçu un pseudo-site internet de l'éditeur Blackstaff qui avait retrouvé ce manuscrit. Le Matt Seden dans ce personnage, M. Seden, n'étant que le copy-éditeur de l'éditeur Blackstaff qui retraite l'information retrouvée, c'est-à-dire le journal de Fabregas. Et donc, en plus, il y a une mise en abîme qui est très 19e siècle. Et donc, moi, je suis rentrée dans ce livre comme on rentre dans un roman du 19e siècle. C'est-à-dire, tout ça a bien existé. Moi, j'ai eu la chance, qui suis un modeste scribouillard de chez Blackstaff, qui est l'éditeur des Étoiles, qui publie les grands textes maudits, j'ai eu la chance de tomber sur le manuscrit de l'homme qui a transmis par l'homme qui a rencontré l'homme le plus grand. Et là, on s'approche en focale de ce conquérant et on découvre quoi ? Un type en costume de corsaire au fond d'une grotte, au fond d'une planète. C'est-à-dire que quelque part, on est dans un steampunk qui est à la science-fiction, ce que le roman historique est à notre culture générale. Donc on n'est pas du tout dans... Moi, je ne suis pas une techno, personnellement. Et j'ai appris la SF dans le roman d'aventure. Après qu'on prenne des vaisseaux spatiaux pour être de l'autre côté d'une planète, ce n'est pas pire que de prendre un bateau pour traverser l'Amérique. Et d'ailleurs, le steampunk français s'est assez amusé avec tout ça pour qu'on ne débarque pas en terra incognita. Mais donc, ce que je trouve formidable, c'est qu'en fait, il y a énormément d'auteurs américains, bon, dont fait partie Jeff, enfin, américain, alors Vandermeer, il est américain comme son nom l'indique, il est européen d'origine, mais qui sont en train de revenir à une conception que je trouve très européenne, et je mets Wallace dedans, parce que je publie aussi David Foster Wallace, qui n'écrit pas de la SF, et pourtant il est un personnage de science-fiction, et ses romans sont de la... Voilà. Et en fait, la SF, c'est la façon maximale de ne rien s'interdire dans la fiction, c'est-à-dire d'aller au bout du rêve de fiction de tout écrivain depuis Homère, pour peu qu'Homère soit une seule personne et pas finalement l'humanité à cette époque. Et de ce point de vue-là, ce qui est très joli, c'est que je pense que Vandermeer, il a entendu parler de Matt Sedden parce qu'on sortait Autorité. Il avait pas encore, Matt n'avait pas encore écrit Hunters and Collectors. Et évidemment, ils avaient des traits communs et qui étaient sans doute ce rapport extrêmement ouvert à la fiction, qui n'est pas celui d'écrivain de science-fiction, mais d'écrivain qui se pose des questions maximales. Et donc, question maximale, univers maximal. Parce que pour moi, le Théâtre des Dieux, je ne sais pas, Matt, si c'est pour toi un livre de science-fiction. Pour moi, c'est du roman d'aventure total, voilà.
As someone who was raised a New Zealander, I find it very difficult to take praise in any form. We're raised to not take praise. But thank you very much for such kind words and for your support and patronage of this project. It's not science fiction. It's its own thing, and I hope that it attracts readers who look for that. Science fiction has to have science in the foreground, and science is not foreground, science is not the reason for this. I like Ego of Man, by the way, because I think that's the most important aspect for a book like this. All the great books, the Gulliver's Travels, they were all, you know, the Odyssey, all these great books that I read, they were all set in these massive scales of time, and there were heroes, but the heroes were flawed, and it counterposes these heroic myths, these kind of great men, mostly men in these stories that we grow up with, sadly. But the existential horror of the fact that it all means nothing. You have these great, grand... the watch cry for my age was a long time ago in a galaxy far, far away. It's the most perfect phrase in all science fiction fantasy because it encapsulates eternal recurrence, the idea that the past can also be the future. There can be these distant civilizations that also have spaceships. The idea that everything is fleeting, that you can be the king of the universe, of the galaxy. You can have this massive empire and then it can all come crumbling down. The idea that this all happened an age has passed, and yet when you start learning about relativity, it's suddenly, well...
Why not?
You know, why is it not right now? Time existing as one continuum, and most of all, just the futility of being alive. Just the absolute futility of building these things and going on these journeys. And I suppose what comes down to a very French question, why do we do it? Why do we push the boulder up the hill every day? Why do we quest for these things when it is essentially meaningless? That seems like a very downbeat note.
Non, pas vraiment. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, éventuellement, ou une petite? Est-ce que quelqu'un a une question qui nécessite une réponse courte?
Hello.
Bonjour.
Ça fonctionne?
Hello.
Oui.
Ça
marche. Bonjour. Je découvre ce livre en même temps que la table ronde, enfin en même temps que cette interview. Pardon, ah oui, excusez-moi. Je découvre le livre en même temps que cette interview. On m'a dit qu'il me plairait, donc voilà. Ce que je voudrais savoir, c'est, vous l'avez peut-être dit au début, mais j'étais pas là, combien de temps vous avez mis à construire cet univers ? Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce... Combien de temps est-ce que vous avez travaillé sur ce livre, en fait ?
My whole life, in a sense, yeah, we covered it right at the start, but it was, I wrote from an incredibly young age. I asked for my seventh birthday, I asked for a typewriter so that I could work faster, and they gave me one, because they're good parents, and since then I've written every single day. So in a way it's been built, in this book, is the book of my childhood. It's everything you ever read when you're young that has an impact on you. You want to kind of express that. Your first book is always about your childhood reading and about how mysterious books are when you first read them. For me, the most influential, everyone it talks about these epics like Gulliver's Travels and Jonathan Swift, the work of Jonathan Swift and Jules Verne. But for me, the most important book of my life is a picture book called Where the Wild Things Are. Do you know Morris Sendak? It's just a picture book, and it's very short, but it has everything that is perfect about literature. It's mysterious. You don't know why he's chasing the dog with the fork. You just know that he is. He's making mischief of one kind or another. And he's not. He's the hero and the villain. So I think that is the starting point for understanding it. I hear music. It's like being at the Oscars. Remember when they're doing their speech and it goes too long, so the orchestra starts playing? That's where we are now. So thank you for coming.
Très
I really
bien.
Do
merci.
Appreciate it.
Merci à vous. Merci, Sarah. Merci, Matt.